Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania.
Ça va me briser le cœur si je dois quitter le Québec, mais le Canada, c'est vaste. Moi, je vais pas accepter de retirer mon voile. C'est pas une option là, pour moi.
La loi sur la laïcité de l'État, instaurée par le gouvernement Legault, s'apprête à changer la vie de certaines enseignantes qui portent le voile. Je vous rappelle que la loi 21 interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en position de coercition et aux enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire dans le réseau public. Comment réagissent les principales intéressées? Est-ce qu'il y a une résistance qui s'organise? Pour le découvrir, on a invité deux étudiantes en enseignement préscolaire et primaire, soit Joanie Santos de l'Université de Sherbrooke et Fatima Zahra Fouzi de l'Université de Montréal. On a aussi avec nous la coordonnatrice aux relations communautaires du Conseil national des musulmans canadiens, Sarah Abou-Bakre. Merci beaucoup de parler aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet sensible et j'apprécie vraiment votre participation.
Merci à vous.
Merci.
La loi 21, elle comprend une clause qui protège les enseignantes qui portent le voile et qui ont déjà un emploi, à condition qu'elles conservent la même fonction dans la même organisation. Par contre, elle change beaucoup de choses pour les étudiantes comme vous qui portent le voile et qui viennent d'apprendre qu'elles vont devoir le mettre de côté si elles veulent enseigner au public. Comment vous avez réagi, vous, en apprenant la chose?
Moi, ma plus grosse réaction, c'est quand que j'ai su que le projet de loi a été déposé. J'ai comme commencé tranquillement à me faire à l'idée que les choses allaient se passer pas comme je voulais. J'étais au travail, puis mon employeur, en fait, c'est une femme musulmane aussi, est arrivée au travail, puis je venais de commencer mon chiffre, puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a juste dit « je suis tellement désolée ». Puis là, j'étais comme « qu'est-ce qui se passe ?» Puis elle m'a dit « ah, t'as pas vu les nouvelles, le projet de loi a été déposé », puis là, j'ai juste comme commencé à pleurer. Puis là, elle m'a laissé comme pas travailler ce soir-là, parce qu'il fallait juste digérer la nouvelle.
Puis toi, Fatima?
Moi, au début, quand le projet de loi a été déposé, j'avais quand même de l'espoir. Je me suis dit que peut-être elle ne va pas passer. Parce que quand même, je voyais les gens qui nous soutenaient. Il y avait une belle...
Une solidarité.
Exactement, ouais. Une belle solidarité. Mais ma réaction, vraiment, c'était après que la loi a été acceptée. C'est là où je me suis sentie diminuée. Parce que ça change complètement ma carrière. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, c'est un peu attristant.
Donc, pour l'instant, est-ce que vous avez un plan? C'est quoi la suite des choses pour vous?
Moi, mon plan, c'est d'obtenir mon diplôme, de finir mon baccalauréat en enseignement au préscolaire primaire. Après, ça va me briser le cœur si je dois quitter le Québec. Mais le Canada, c'est vaste. Puis moi, je vais pas accepter de retirer mon voile. Donc, c'est soit que je vais quitter s'ils veulent pas de moi ici. Parce que si on veut pas de moi, je veux pas rester ici. Mm-hmm. Sinon, j'ose espérer que les choses vont s'améliorer. Là. J'ose espérer que peut-être que la loi va finir par partir ou être annulée.
De ton côté, Fatima?
Mon conjoint et moi, on a essayé d'évaluer la situation, de voir toutes les possibilités. Ça va être une option aussi de quitter la province. C'est pas très difficile pour moi parce que je suis immigrante, donc j'ai déjà quitté mon pays. Donc, mais ce qui est difficile, c'est que j'ai établi déjà une situation ici. Mon mari a un travail, mes enfants vont à l'école. Travailler dans le privé, c'est effectivement une option, mais c'est pas vraiment une vraie option. Il y a combien d'écoles islamiques? Il y en a 3 ou 4. C'est pas beaucoup.
Puis tu sais, il y a aussi le fait qu'avec toutes les tensions sociales qu'il y a en ce moment là, concernant les enseignantes et le voile, on n'a aucune garantie que les écoles privées, ils vont pas l'appliquer sans que ça soit officiellement dit. Ils vont nous passer en entrevue, puis entre une fille qui a le même CV, qui n'a pas le voile, que ça va faire moins scandale auprès des parents, de tout ça. Encore là, nos chances sont encore diminuées.
Sarah, le Conseil national des musulmans canadiens accompagne des femmes justement dans le processus légal qui entoure la loi 21. Donc, pour vous, la solution, c'est de contester la loi.
Absolument. On a déjà fait avec la loi 62. Bien sûr, on n'avait pas de veto avec la loi 62. C'était un peu plus facile. Là, c'est un peu plus un obstacle, mais on est quand même optimiste. On est quand même confiant des démarches qu'on fait. On ne fait pas juste pour les femmes voilées. On fait pour les minorités. Il y a aussi la communauté sikh. Il y a les juifs. Il y en a beaucoup plus. Il y a aussi les chrétiens qui décident qu'ils veulent porter leur croix. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour ces gens-là qu'on fait ces démarches-là. Et c'est aussi parce qu'on se fait aliéner. Donc, on se fait vraiment traiter comme des citoyens de seconde classe. Oui, c'est vrai que les personnes qui portent des symboles religieux, c'est les premiers à faire face aux conséquences. Mais c'est pas vrai que quand on marche dans la rue, les gens qui portent des symboles religieux, ils font pas face à ces conséquences-là aussi.
Ça instaure un climat social, à ton avis?
Ben oui, ça fait beaucoup de tension et ça fait en sorte que ça laisse les personnes qui ont déjà de la haine en eux, puis des gens qui sont vraiment discriminatoires ou qui ont une mauvaise compréhension de « on est qui », d'être confortable pour faire des actions par rapport à ce qu'ils pensent.
C'était mal vu avant. Maintenant, notre propre gouvernement le fait.
Absolument.
Nos propres politiciens le font.
Absolument. Avez-vous une différence
depuis la
loi 21?
Oui. À chaque jour, on reçoit des cas comme ça.
Oui. Moi, à chaque fois que je sors de chez moi, je le sais que ça se peut très bien qu'aujourd'hui, je me fasse insulter, envoyer chier. Avec le temps, je deviens un peu indifférente face à ces attaques-là, mais c'est place de se dire que c'est rendu que ça me fait moins quelque chose, tellement que c'est récurrent.
Mais toi, Joanie, en plus, tu t'es convertie à l'âge de 17 ans.
Ouais.
Est-ce que tu as vu une différence entre le regard qu'on posait sur toi à l'époque, celui qu'on a posé sur toi une fois que tu t'es affichée en tant que musulmane et celui qu'on porte sur toi aujourd'hui dans le contexte de la loi 21?
En fait, je crois que quand je me suis convertie, j'ai pas décidé de porter le voile immédiatement. C'est plus quand j'ai choisi de porter le voile que là, ça a comme créé un tsunami. Là.
Ah ouais.
Ben tu sais, c'est que j'ai grandi en région, là. Je viens de Thetford. Donc, déjà, juste de retourner dans ma ville où j'ai grandi, c'est comme j'ai une boule au ventre parce que quand je vais rendre visite à ma mère, par exemple, je peux pas vraiment sortir. Ben je peux sortir. C'est juste que je suis rendue épuisée de devoir faire face aux regards. Tu sais, on dirait que je suis un animal en zoo là, quand je vais là-bas. Là.
Mm-hmm.
Et on dirait qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils font que me regarder. Je me suis déjà fait agresser au Tim Hortons.
Je suis vraiment désolée. Puis comment réagit le milieu universitaire à la loi 21? Est-ce que vous sentez que vous avez du support ou est-ce que, comme la majorité des Québécois, votre milieu appuie la loi?
Moi, personnellement, à l'université, on a beaucoup de support. D'ailleurs, le Macaron, c'est notre association des étudiants et étudiantes à l'Université de Montréal qui la distribue aux gens. Oui, ils nous soutiennent, des Québécois.
Peu importe, là, finalement, leur allégeance religieuse.
Exactement. Peu importe, c'est vraiment des Québécois. La majorité, c'est des Québécois. Moi, je rencontre des étudiants qui nous disent « On est avec vous. » Je les connaissais même pas, je les connais même pas. Donc, ils nous soutiennent. Rien n'a changé, franchement. Même les professeurs, le regard est le même. Donc, ça se passe comme d'habitude, jusqu'à présent.
C'est sûr que les associations sont vraiment, vraiment, vraiment en collaboration.
Les associations étudiantes?
Les associations étudiantes. Moi, j'ai gradué de Concordia. J'étais à Concordia l'année passée. Je participais dans plusieurs comités dans l'Union des étudiants. Donc, je peux dire que oui, il y avait un grand, grand, grand support. Il y avait aussi un support du département de l'éducation de l'université. Mm-hmm. Donc, je les ai rencontrés une fois. Et puis, c'était vraiment pour, tu sais, un petit genre brainstorm pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les étudiantes ou les étudiants qui seraient touchés par la loi.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Malheureusement, avec la clause non-obstant, c'est très, très difficile de faire quelque chose légal. Pourtant, on le fait et on essaie de demeurer très optimiste, on est très confident. Pour le restant des gens, c'est vraiment l'opinion publique. Il faut changer l'opinion publique. Les macarons, c'est... Bon, il est là. Mais le macaron, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Parlez à vos voisins, parlez aux gens, juste...
C'est
faire la discussion.
C'est ça qui a le plus grand impact. Là.
Absolument, parce qu'il y a une grosse différence quand tu es à Montréal et tu vois le niveau de support pour la loi 21 et quand tu sors de Montréal et tu vas voir le restant du Québec. Tu nous as donné un vraiment bon exemple. Et tout ça, c'est vraiment basé sur le fait qu'il y a la peur de ce que je connais pas. Changer l'opinion publique peut vraiment, vraiment avoir un grand impact.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi c'est si difficile d'enlever le voile.
C'est difficile de répondre à cette question parce que si je dis que c'est une identité ben, les gens vont l'interpréter d'une façon. Mmh. Si je dis que c'est Dieu qui m'oblige à le mettre, ils vont l'interpréter d'une façon. Si je dis que ça fait partie de moi, encore, j'aurai une autre interprétation.
Aussi, on ne peut pas parler au nom de toutes les femmes voilées. Oui. Là. Je veux dire, tout le monde le porte pour une...
Pour une raison.
Pour une raison.
Oui.
Puis je ne veux pas dire la raison pour tout le monde, c'est celle-ci.
Mais c'est un choix intime.
C'est un choix vraiment intime. Et normalement, ça ne devrait pas être questionné.
Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact dans une classe? C'est quoi le regard que les enfants portent, par exemple, sur le voile?
Moi, j'ai déjà fait deux stages.
Oui.
Je fais de la suppléance dans les écoles, dans différentes commissions scolaires. Je vous confirme que le regard des enfants n'a pas changé. C'est le même. Les enfants me voient en tant qu'enseignante. Mm. Pour eux, je mets le voile, je ne le mets pas, je reste Madame Fatima. Ça ne change rien pour eux.
C'est
ils voient en moi l'enseignante qui va leur transmettre des connaissances, qui va partager avec eux son quotidien peut-être, plusieurs choses. Mais ils ne voient pas en moi un voile, une personne ou un être humain qui se déplace avec un foulard sur la tête. Mm-hmm. Ils ne voient pas ça. Nous, on est à Montréal, c'est vraiment, il y a de la diversité. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal que je porte un voile parce qu'ils côtoient chaque jour des élèves de 5e année, 6e année qui le portent déjà. Mm-hmm. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal.
Ça fait partie de leur quotidien.
Oui, ça fait partie de leur quotidien.
Puis, parlons-en des stages. Est-ce que vous pouvez les faire en portant le voile?
A priori, oui.
Pour l'instant, c'est encore permis.
C'est ça, oui.
Donc, dans le cadre de votre bac, vous pouvez porter le voile en classe. C'est à partir du moment où vous êtes employé que vous devriez théoriquement l'enlever ou travailler au privé.
Mais encore là, il y a des nuances. Comme là, légalement, on peut le porter. Mais on s'entend comme, par exemple, moi, que mes stages sont vraiment en région. L'année passée, la loi n'était pas passée, puis il a fallu que je porte plainte parce que j'ai eu des problèmes parce que je portais le voile durant mon stage.
Oh oui. Pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à la loi 21?
Nous, on cherche à voir cette loi suspendue carrément. Mmh. On veut pas cette loi. La province, avec cette loi, ça permet d'être discriminatoire. Ça permet aussi la loi de nous traiter comme des citoyens de seconde classe, pas comme les autres Québécois à la fin de la journée. Donc, c'est une loi qui est vraiment pas juste.
Parce que ça n'impacte pas juste les femmes voilées, enseignantes. Ça impacte là, toutes les minorités visibles. Comme parce que quand tu te promènes dans la rue, là, les gens ne savent pas si tu es une enseignante ou pas là, qui porte le voile.
Ben oui.
Fait que c'est toute la communauté de femmes voilées qui est touchée par ça et qui reçoit de plus en plus de haine. Ça nous touche tous.
Ouais. Qu'est-ce que vous espérez avant la fin de vos études, Fatima et Joanie?
Comme a dit Sarah, que la loi soit suspendue et qu'on puisse exercer le métier qu'on souhaite faire. Moi, je ne veux pas faire autre chose.
Et
je
le faire enseigner. Ici,
oui.
Au public.
Oui, au public. Ouais. Je ne veux pas être condamnée à travailler dans une école privée ou deux écoles privées. Je veux vraiment pouvoir travailler dans n'importe quelle école, comme les autres
enseignants. On veut les mêmes chances que tout le monde.
Oui, c'est ça.
On est formé pour être enseignante. On va avoir le baccalauréat en main. On a autant de compétences que les autres. Puis en plus, on est en pénurie d'enseignantes au Québec.
D'autant plus que, excuse-moi, dans le milieu éducatif... ou en éducation, on parle tout le temps d'intégration. On forme les élèves ou on transmet un message aux élèves pour qu'ils deviennent des citoyens ouverts. On leur montre que l'école, c'est une petite société, qu'il y a de la diversité, qu'il faut accepter tout le monde, socialiser avec tout le monde. Ils voient la diversité toute la journée. Donc, c'est vraiment contradictoire pour l'enfant de lui dire, dans cette petite société, tu vas accepter les enfants qui sont avec toi, qui viennent de n'importe quelle race ou de n'importe quel pays, mais... entre parenthèses, tu n'acceptes pas les enseignantes qui portent un signe religieux.
Mmh.
On ne peut pas avoir un modèle d'enseignant, un seul modèle.
Ça ne les prépare pas pour la vie dans laquelle ils vont entrer après. Là. Dans la société, quand tu vis, tu vas travailler avec des gens différents de toi. Puis, c'est pas comme s'ils vont juste avoir des enseignantes voilées. Là. On est une minorité, justement. Ça ne change absolument rien. Ils voient juste qu'il y a... divers modèles féminins et masculins. Puis, quand il sera grand, il va choisir, lui, ce qu'il veut devenir.
Si j'avais des enfants, je serais heureuse qu'ils aient accès à des modèles comme vous,
madame.
Honnêtement, j'espère que cette conversation-là va déboulonner certains mythes et je vous souhaite tout le support nécessaire dans la poursuite de vos objectifs professionnels ou sociaux. Donc, merci beaucoup, Joanie Santos, Fatima, Zahra Fouzi et Sarah Aboubakr.
Merci.
Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.